Si l'opinion publique se mobilise en République dominicaine pour protester contre cette situation, les Braceros eux-mêmes refusent de se soumettre, refusent d'être considérés comme des esclaves. Nous en avons reçu au studio de Radio Haïti Inter et nous avons, comme vous le savez, opéré des enquêtes, quelques petits reportages et écouté des interviews avec les Braceros revenus de là-bas qui témoignent de cette répression militaire.
Qui sorte de décision qui fait que les militaires dominicains vont battre nos coups?
Eh bien, ça fait nous militaires battre nos coups, c'est parce que là que mes immigrations a fait là, ils n'ont pas voulu voir nous venir. Et puis nous disons pour voir nous venir, ils n'ont pas voulu. Là, nous-mêmes, Congo, nous propres voir nous, alors pour nous venir.
C'est-à-dire, nous ne pas voulu rester encore, nous demandons
pour
nous venir.
Pour nous venir dans le pays,
nous. Mais est-ce que pendant que nous ne pas de venir, hein, nous suspendons le travail?
Non, nous pas de travail. Les nous suspendons le travail là, je dis nous comme ça, c'est $1,000 Jean-Claude vend nous.
Ou pas un Dominicain qui dit que ce contrat nous pas respecter?
Non, nous pas venir dire nous ça. Lorsque nous faisons ça, nous venons, nous allons 4 immigrations dans la poche nous. Nous disons pas, ouais, Jean-Claude pas vendre vend non. Son faveur, Jean-Claude fait Goussman. Il veut nous venir travailler.
Qui ça qui arrive qui fait que Haïtiens viennent demander pour aller? Qui dernier barrière qui arrive?
Dernier barrière qui arrive, là ça vient fermer. Nous restons 15 jours. Nous faisons 15 jours tel. Moi, avec un compagnon, je l'ai fait.
Ça classe ça.
Nous faisons couper quand. Bon, moi, un compagnon, je l'ai fait. Moi, un compagnon, je l'ai lu. Bon, les nous disons comme ça. Nous venons. Nous disons comme ça. Nous sommes dans la bataille. Nous allons tuer nous. Regardez-nous, c'est si comme nous travaillons dans le camp, pour nous venir dans le pays, si nous avons besoin de travailler pour nous acheter. C'est le même nous chita nous manger. Je dis à faire mon mois, 22 jours, depuis que je suis Saint-Domingue, et je suis dans la bataille, côté ma travail qui est sans perdre là. Bon, les mouvements dans 22.
Mais qui est-ce que tu pendant ça?
Sans perdre, mes deux.
Non, je suis dans la bataille là, côté de.
Dans 22, mes deux.
Ça t'a fait là?
Dans la migration, nous venons.
C'est-à-dire, nous étions là pour jusqu'à ce que
nous étions là pour dormir dehors, la plaque tombe sous vous, la plaque mouille.
Aujourd'hui, il y a un haïtien l'autre bois qui a besoin d'entrer.
Tout besoin de venir, tout net à ta vie a besoin de venir.
Pour qui ça va pas venir, Kounia?
Eh bien, Kounia, pour y'a venir, c'est 5 gouttes. C'est 5 gouttes pour y'a joindre, pour y'a bail.
Qui est-ce pour y'a bail 5 gouttes là?
Mon cap entre, mon cap fait mon nom, après mon immigration, chef qui s'y a sous chaise là même. Les venir mettre un bon inspecteur. C'est spectacle là qu'a ramassé pour 5 gouttes dans même monde. Mon qui gagne 5 gouttes là bien, mais malheur pas gagne 5 gouttes là pour bail, c'est là où il était.
Si nous comprenons bien, travail là fini kounia. Travail c'est pas couper quand encore.
Non,
mais c'est tourner ou bien tourner. Yo boko voyez tourner.
Yo ta vle pour nous rit là dans pied pour yo là yo besoin piler, alors pour yo joindre nous pour piler nous.
Bon, est-ce que gagne nèg qui blessé l'autre bois mot bail ça
dans côté avec nèg cassé. Nèg tombé, moun tombé sous moun.
Qui l'est, nan qui moi?
Non, moi ça avant, y'a semaine avant, y'a parti lundi, c'est le jeudi, vendredi.
Qui bo?
Sans un an vendé. Avant y'a nèg mouri, yo ba de nèg. Yo ba de nèg de pour qu'on fizi. Moun qui blessé.
Ou dit nèg mouri, nèg blessé ou
bien? Y'a yon nèg qui mouri.
Un seul nèg?
Un seul nèg. Alors si y'a plus mouri, m'ba kon pou de m'na. Si bien que mourir, mon son seul qui mourit devant.
Mais qui ça n'est que ça vous avez fait vous-même? C'est grève que vous avez fait?
Non, sous four ligne, allez. On a nourri sous four ligne. Et puis, gendarme dominicain, prend physio pour rabourer nous. Chaque fois, vous parlez de ces cochons nous.
Est-ce que vous avez 5 batailles militaires?
Oh, là que nous restons grave. Nous bataille. Nous bataille.
Bataille,
mais nous prenons bout de battre.
Alors, est-ce que ça, c'est côté à ce moment, ça arrive ou bien? Comme on dit dans l'autre bois, dans le premier rôle, est-ce que vous connaissez ça arriver de l'autre côté, dans l'autre bataille?
Non, toute bataille net.
Même si Timan Gofil coule dans fleur, non fait cache-cache li bac la poussière. Même si Zabo table trompé printemps, pour sa papa y donne contre-temps. Même si c'est la comptable est trop rôlée, ap dégrené nos farines et la pluie, pour faire tout péché la terre convertie. La vie beaucoup finit pour ça. Bon courage, les amis mignons, n'a prié bon Dieu pour nous. Bon courage, les amis mignons, pour nous joindre joie à bonheur. Bon courage, les amis mignons. après l'hiver c'est pas printemps. Bon courage, mes amis, après la pluie c'est pas bon temps. Même si on a compté sur le côté son mari, après le pas son journée dans la factory, après d'aller son machine trois aiguilles, quand il mine un petit petit. Même si bon son sont déjà embauchés, pour mettre l'argent dans poche grand mon cher. Même si l'enfer est pas ressuscité, la vie pour qu'on finisse pour ça. Bon courage, les amis miens, ma prière pour Dieu pour nous. Bon courage, les amis miens, pour nous joindre joie à bonheur. Bon courage, les amis miens, après l'hiver c'est va printemps. Bon courage, les amis miens, après la pluie c'est va bon temps. Même si c'est un couillon gros madichon, en haut la caille pour mon rapichon. Dans la première trône, dans l'arrière saison, chouk yo pas même poussé djon djon. Même si la vala fin lave mon yo, yo pas même bon pour planter pois Congo. Si nega pétro précon pour zago, la vie poko fini pour ça. Bon courage, les amis mio, ma prière pour Dieu pour nous. Bon courage, les amis miens, pour nous joindre joie à bonheur. Bon courage, les amis miens, après l'hiver c'est va printemps. Bon courage, les amis miens, après la pluie c'est va bon temps. Même si pour nous y a nous et même moyo, à profiter pour prendre la vie d'assaut. Malgré qui n'est qu'à faire un pile effort, la vie toujours semble à clan mort. Malgré nous-mêmes qui déjà dans la vie, n'oblige à pas prendre manger pour zombie. Parce que mamie, c'est la vie, fait grand prix. La vie pour finir pour ça. Bon courage, les amis, ma prière bon Dieu pour nous.
L'ouragan Allen et la situation des Braceros ne peuvent détourner notre attention de l'évolution de la situation politique en Amérique latine. Argentine, Chili, Brésil, Paraguay, Uruguay, le bloc militaire caudilliste et fasciste, antidémocratique, vient de marquer un point important avec la prise du pouvoir de l'armée en Bolivie, comme nous l'avons souligné dimanche dernier. Il n'y a pas là un simple effet de la géopolitique du continent. De plus en plus se révèlent à l'opinion publique les complicités dont ont bénéficié pratiquement les militaires boliviens dans le camp des militaires argentins, chiliens et brésiliens. Si le cône sud du continent américain s'organise ainsi en un bloc antidémocratique, devant ce danger, d'autres forces se constituent. La récente visite à La Havane du président mexicain José López Portillo peut se situer dans cette perspective de constitution d'une force démocratique antifasciste, anticaudilliste et antimilitaire. Après son escale de La Havane, le président mexicain doit ensuite se rendre à Caracas pour consolider l'axe qui se dessine entre Mexico et le Venezuela, avec un point d'appui non négligeable dans la capitale cubaine. Les deux plus puissants États de la région Caraïbe après les États-Unis sont en effet le Mexique et le Venezuela, tous deux sous des idéologies différentes, engagés cependant dans la même voie politique de développement démocratique. Les gouvernements mexicains et vénézuéliens sont tous deux très concernés par cette arrogance envahissante des groupes militaires de la droite fasciste dans le continent latino-américain et, sans le dire tout haut, ils sont très alarmés par la caution qu'un éventuel gouvernement Reagan aux États-Unis pourrait être amené à donner à la droite militariste et fasciste latino-américaine. Ce qui ne gâte rien, il faut souligner que le Venezuela et le Mexique sont deux pays producteurs de pétrole, ce qui permettra d'ajouter un certain poids à leur action politique. Il faut bien réaliser ici que les conditions actuelles dans le continent ne sont plus celles qui prévalaient lors de l'époque d'hystérie anticommuniste des années 50. Souvenons-nous alors que les politiciens américains avaient tendance à écraser purement et simplement tout mouvement démocratique et nationaliste des peuples latino-américains sous l'appellation de lutte contre le communisme. Le cas du Guatemala de Jacobo Arbenz est typique de cette réaction viscérale des hommes du Pentagone, alliés à la droite la plus conservatrice des États-Unis. À l'époque, le sous-développement économique des grandes nations latino-américaines, la timidité et la paralysie des forces démocratiques modérées du continent rendaient impossible la constitution d'un contrepoids politique à cette tendance autoritaire de la puissance impériale américaine qui ne voyait partout que des ennemis, pourvu que l'on ne fût pas à genoux devant eux. Seuls les militaires et les groupes armés de droite et les régimes répressifs avaient grâce à l'époque à Washington. L'arrivée au pouvoir à La Havane de l'armée des rebelles de la Sierra Maestra, riposte cinglante du peuple cubain au renversement par la CIA et ses laquais du gouvernement démocratique du Guatemala 6 ans plus tôt, avait normalement provoqué sur le plan régional une consolidation des forces militaires et droitières antipopulaires sous la bannière de l'anticommunisme et de l'anticastrisme, danger que faisait peser la révolution cubaine sur le continent. La conférence de Punta del Este avait marqué le sommet de cette campagne washingtonienne de reprise en main des choses et de digue antifidéliste. Mais 20 ans après, le panorama politique a changé dans le sous-continent. Castro n'est plus isolé comme il l'était alors. Certes, son image de héros flamboyant, de libérateur des peuples, du tiers-monde, s'est un peu ternie. L'affaire des boat people cubains, l'exode continu des fils de José Martí vers la terre américaine, les gigantesques problèmes économiques que Castro n'arrive pas à résoudre, malgré une aide monstrueuse de l'URSS, qui augmente la dépendance de Cuba envers les puissances soviétiques, la répression interne qui continue contre toute forme d'opposition à Cuba, tout cela jette une ombre sinistre sur le régime établi il y a 20 ans par les Barbudos. Cependant, les réalisations incontestables du régime cubain dans les domaines les plus divers constituent encore des points de référence pour une certaine gauche maximaliste latino-américaine. Élévation du niveau de vie de la population autrefois misérable, réforme agraire, éducation, alphabétisation populaire, effort national valable dans les domaines de la santé, de l'hygiène, de l'assistance sociale, du logement, réforme urbaine, développement d'une classe moyenne de techniciens hautement qualifiés, de cadres compétents et motivés, etc., etc. Et enfin, l'aide militaire, économique, technique aux pays du tiers-monde, comme l'Angola ou l'Éthiopie, c'est aussi, malgré les échecs partiels et sanglants, comme en Éthiopie, une preuve du désir de coopération progressiste de Cuba. Il est vrai qu'à ce niveau, cette aide a provoqué fort judicieusement une réaction des pays modérés du continent africain comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, qui, soutenue par Washington, voit dans la présence obsédante des Barbudos en Afrique une forme détournée d'impérialisme soviétique. Quoi qu'il en soit, le prestige, bien qu'amoindri de la Cuba socialiste, reste encore grand. Et la visite de López Portillo à La Havane est hautement significative à ce point de vue. Certes, le Mexique n'a jamais participé à la campagne d'isolement de Cuba en Amérique latine. Le Mexique n'a jamais donné dans le panneau de l'hystérie anticastriste. Le Mexique a toujours maintenu des relations diplomatiques avec Cuba. Le Mexique a toujours été une terre d'accueil aux révolutionnaires latino-américains. Historiquement, depuis la révolution mexicaine de 1905, ce pays a toujours manifesté une indépendance constante, ferme, quoique prudente, face à l'impérialisme gringo, comme on appelle là-bas les Américains. Le fonctionnement d'une démocratie progressive dans le cadre d'un système de parti unique, le Parti révolutionnaire institutionnel, a permis au Mexique d'harmoniser le jeu des forces sociales et politiques alternant au pouvoir et permettant un développement économique sans trop grand heurt. De sorte qu'aujourd'hui, une bourgeoisie nationale, dynamique, à l'esprit d'entreprise, pionnière, s'épanouit industriellement et commercialement, parallèlement à l'existence d'un secteur public de production à tendance socialisante. Le Mexique peut être donné comme exemple typique de socialisme démocratique modéré et progressiste qui assoit aujourd'hui la puissance économique du pays tout entier. La récente ouverture du régime de parti unique au multipartisme contrôlé est le signe d'une vitalité d'un système qui ne craint plus ni la contestation, ni la dissidence, ni même l'opposition. La coopération récemment ratifiée entre le Mexique et Cuba doit être considérée comme un avertissement aux forces conservatrices qui s'apprêtent à prendre le pouvoir à Washington. Cela signifie d'une part que les nations démocratiques du continent n'ont plus aucun complexe anticastriste viscéral. Qu'au contraire, elles souhaitent peut-être ramener Cuba dans le giron des nations démocratiques du continent, faisant ainsi contrepoids à l'hégémonie soviétique. Qui sait ? L'invitation récente lancée à Fidel Castro de participer au congrès de l'Internationale socialiste à Santo Domingo il y a quelques semaines n'a pas d'autre signification. Cet événement et la visite de López Portillo à La Havane il y a quelques jours veulent tout au moins dire que la gauche démocratique latino-américaine se rend bien compte que l'exclusion de Cuba sous prétexte d'anticommuniste ne peut que favoriser la montée des forces militaristes de droite, et que cela pourrait, à la longue, rejeter les masses latino-américaines dans les bras d'extrémistes plus radicaux encore. C'est contre ce schéma traditionnel que les nations démocratiques du continent tentent d'opposer une approche moins viscérale, plus rationnelle, plus indépendante de l'action politique à mener à présent. D'autant que ce nouvel axe Mexico-La Havane se renforcera dans quelques jours par une rencontre entre les présidents mexicains et vénézuéliens Luis Herrera Campins, le socialisme démocratique du Parti révolutionnaire institutionnel mexicain et le christianisme démocratique du COPEI vénézuélien vont donc jeter les bases d'un front commun de lutte antifasciste, anticaudilliste dans le continent. Ce front n'exclut pas au départ le socialisme marxiste du castrisme. Déjà, les conseils de prudence de Fidel Castro aux leaders sandinistes donnaient raison à l'avance au pari effectué par les Mexicains, pari selon lequel Fidel, loin de jouer un rôle d'agitation maximaliste et radicale dans les mouvements de libération latino-américaine, pourrait au contraire jouer un rôle modérateur pour éviter à ces mouvements de refaire les mêmes erreurs commises par la révolution cubaine par suite des circonstances spécifiques rencontrées par cette révolution. La réconciliation qui s'amorce entre Cuba et le Venezuela avec les bons offices du Mexique est peut-être le signe que demain, les peuples latino-américains vont pouvoir lutter plus efficacement contre le fascisme militaire de la droite, réactionnaire, archaïque, spoliatrice du continent, sans pour autant recourir implacablement aux méthodes radicales et sanglantes d'antan. Si le socialisme démocratique mexicain, soutenu par le christianisme démocratique vénézuélien, anime d'une dynamique nouvelle le mouvement démocratique latino-américain, qu'il soit chrétien ou socialiste, et que le castrisme, plus mesuré, apporte sa contribution à ces mouvements politiques, ce sera ainsi constitué une force populaire considérable, capable de faire échec, comme en 1978 en République dominicaine, à tous les coups de botte, à tous les coups d'État fasciste, militaire de la droite.
Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo. En el mar de las uvas, nuestro vino.
C'était, pour terminer notre coup d'œil sur la situation politique du mouvement démocratique en Amérique latine, quelques phrases de Mercedes Sosa, accompagnée à la guitare et chantant « La terre pour son peuple ».